Bonjour, nous sommes en direct de Globule Radio pour une émission spéciale sur le thème de Chamonix au 18 et 19e siècle. Je suis Armand et je suis en compagnie de Nila, Nicolas et Emma.
Bonjour tout le monde.
Pour préparer cette émission, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs spécialistes. Vous entendrez des interviews sur le développement du tourisme au 18e et 19e siècle. Une autre sur l'évolution du ski.
Par la suite, une interview sur les habitations. Et pour finir, nous parlerons de Henriette d'Angeville, deuxième femme à gravir le Mont Blanc.
Mais nous nous permettrons aussi de vous parler de sujets qui nous tiennent à cœur avec nos chroniques préparées spécialement pour l'émission d'aujourd'hui.
Pour démarrer cette émission, tu vas nous parler de ton sujet, Nicolas.
Je vais vous parler du développement du tourisme au 18e et 19e siècle. Qui sont les premiers touristes? Pourquoi sont-ils venus? Qu'est-ce qu'ils nous ont aussi apporté à la vallée? Pour répondre à ces questions, écoutons mon reportage.
Qui sont les premiers touristes à Chamonix?
Les premiers touristes de Chamonix s'appelaient William Widam et Richard Pocock.
Qu'est-ce que nous ont apporté les premiers touristes?
Quand les premiers touristes sont arrivés à Chamonix, on y a vu un développement des infrastructures touristiques, hôtels, restaurants, etc. Et Chamonix a aussi commencé à améliorer et à faciliter l'accès à Chamonix pour les touristes. Les premiers touristes ont aussi mis en avant les sports de montagne. Pour résumer, les premiers touristes ont joué un rôle crucial dans le développement de Chamonix.
Quand sont arrivés les premiers touristes?
Les premiers touristes à Chamonix sont venus en 1741.
Quand sont-ils venus et par quels moyens?
Les touristes sont venus par des chemins sinueux, à pied ou à cheval.
Sont-ils venus volontairement?
Les premiers touristes sont venus volontairement à Chamonix, motivés par des intérêts personnels, scientifiques et un désir d'aventure et de découverte. Leur enthousiasme et leurs récits ont aidé à établir la réputation de Chamonix comme une destination incontournable pour les amateurs de montagne et de nature.
Pour quelles raisons les touristes venaient-ils à Chamonix?
Les raisons pour lesquelles les touristes sont venus à Chamonix sont variées, allant de la recherche scientifique à des explorations alpinistes, à la quête de beauté naturelle et d'aventure. Ces motivations ont contribué à transformer Chamonix en une destination touristique de renommée mondiale.
Quelle saison a attiré le plus les touristes à Chamonix?
Bien que l'été ait été initialement la saison la plus populaire pour les premiers touristes à Chamonix, l'hiver est devenu tout aussi, voire plus attractif, avec l'essor des sports d'hiver. Aujourd'hui, Chamonix est une destination prisée toute l'année grâce à la diversité de ses activités et de ses attractions.
Quelles infrastructures ont été créées pour les touristes?
Des hôtels ont été créés par le début du tourisme, des chalets, des gîtes, des chemins de fer pour un accès à la vallée plus simple et des téléphériques.
Pourquoi le nombre de touristes a explosé au cours du dernier siècle?
Une combinaison de développement des infrastructures, d'événements internationaux, de promotion efficace, d'évolution des loisirs et des progrès technologiques a conduit à une explosion du nombre de touristes à Chamonix au cours du dernier siècle.
Quelle était l'activité principale des premiers touristes?
L'alpinisme était l'activité principale des premiers touristes à Chamonix, motivés par l'esprit d'aventure, les recherches scientifiques et l'exploration des sommets et des glaciers. Les activités secondaires incluaient la randonnée, l'observation de la nature et les travaux artistiques, contribuant tout à faire de Chamonix une destination prisée dès ses débuts.
Merci Nicolas pour ton reportage. Avant de poursuivre cette émission sur Chamonix au 18 et 19e siècle, on écoute tout de suite Rude Boy de Rihanna.
Baby, baby,
Écoutez bien Globule Radio, ici Nila du collège Jeanne d'Arc. On poursuit notre émission avec l'interview de Armand sur l'évolution du ski. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Rebonjour. Oui, j'ai choisi de travailler sur ce sujet car j'adore le ski. Et je me posais plein de questions sur comment on faisait du ski avant, d'où ça vient, à quoi ressemblaient les premiers skis. Pour répondre à mes questions, je suis allée à la rencontre d'Aline D'Acosta, médiatrice au musée alpin.
Bonjour, je m'appelle Armand, je suis au collège Jeanne d'Arc. J'ai un projet sur Globule Radio. J'ai un thème qui est l'évolution du ski à Chamonix au XVIIIe siècle. Et je vais vous en parler avec Aline D'Acosta qui va me répondre à ces questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, bonjour, donc, je m'appelle Aline D'Acosta, je suis médiatrice culturelle au musée alpin de Chamonix. Je travaille donc pour le réseau des musées de la vallée.
Alors la première question, c'est quelle a été la première grande évolution dans le ski ?
Alors la plus grande évolution dans le ski, à mon avis, je pense aux fixations. Les fixations, donc au départ, les skis étaient de simples planches de bois et on fixait le pied uniquement sur l'avant. L'arrière du pied n'était, lui, pas maintenu, un petit peu comme le ski de fond ou le télémarque. Et puis, quand la fixation arrière a été imaginée, inventée, alors c'était plutôt bien parce que le pied était bien attaché sur le ski. En revanche, ça entraînait beaucoup de fractures, lors des chutes notamment, puisque ces fixations ne permettaient pas au pied de se libérer. Du coup, évidemment, après, les fixations vont évoluer de façon à libérer le pied en cas de chute et d'éviter de nombreuses fractures.
Comment et pourquoi a-t-on fait évoluer le matériel de ski ?
Alors, on a fait évoluer le matériel de ski tout simplement en fonction des besoins, des pratiques, pour le sport, pour la compétition. On a adapté, et on continue d'ailleurs toujours d'adapter, en fonction du ski qu'on va pratiquer, puisqu'il existe plusieurs types de ski. Aujourd'hui, le ski de piste, le ski freestyle, le ski de boss, par exemple, le ski de randonnée, le ski de compétition, le ski de fond, le ski de randonnée nordique. Donc, en fonction du ski qu'on va pratiquer, eh ben, on n'aura pas les mêmes skis. Le saut à ski ne sont pas du tout les mêmes que le ski alpin, par exemple. Donc, cette évolution, elle va se faire tout simplement en fonction des besoins et des pratiques.
Quelle est l'évolution des premiers skis ?
L'évolution, elle est simple. Les premiers skis étaient, comme je disais tout à l'heure, de simples planches de bois. À l'époque, les chasseurs attachaient leurs chaussures sur les skis avec des nerfs d'animaux ou des sangles de cuir. Donc, du coup, voilà, l'évolution du ski, on parlait de la fixation juste avant, eh ben, on passe de ces simples planches de bois avec des nouveaux matériaux aujourd'hui et puis surtout les fixations qui ont beaucoup évolué.
Quel pays a inventé le ski ?
Alors, le ski a été inventé dans les pays nordiques, particulièrement la Norvège. Les premières gravures rupestres qui représentent des hommes à ski remontent à plus de 6000 ans. C'était aux alentours de 4000 avant Jésus-Christ. Donc, voilà, c'est plutôt la Norvège qui a inventé le ski, même si on retrouve aussi des traces en Russie, en Mongolie. Les origines exactes du ski, c'est tellement ancien qu'elles sont difficiles à déterminer. C'est une époque lointaine, mais en tout cas, voilà, dans ces pays nordiques.
Sait-on quand et comment cette invention est arrivée jusqu'à Chamonix ?
Alors, donc c'est une longue histoire. Effectivement, au départ, on pratique le ski, notamment en Norvège, en tout cas dans ces pays où il y avait de grandes plaines enneigées. Et ce sont les chasseurs qui ont eu besoin de se déplacer rapidement sur la neige. Alors, au départ, pour se déplacer dans la neige, ils vont d'abord imaginer la raquette. La raquette permettait de marcher sans s'enfoncer dans la neige. Mais malheureusement, avec des raquettes aux pieds, on va quand même pas très vite. Alors que les chasseurs, eux, avaient besoin de se déplacer rapidement. Donc, ils ont pris de ces planches de bois. C'était au départ un moyen de transport. Et puis, le ski va d'abord se répandre en Scandinavie. À ce moment-là, en Europe de l'Ouest, à cette époque, on ne connaissait pas vraiment cette pratique. En France, c'est grâce à Henri Duhamel, notamment un grenoblois. Lui, il va acheter une paire de skis lors d'une exposition internationale à Paris en 1878. En fait, une exposition internationale, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, mais il y a plusieurs pays qui présentent des spécialités de leur pays. Et c'est là qu'il découvre cet objet. Du coup, il va acheter cette paire de skis à un Suédois. Et il revient chez lui, à Grenoble. Et il va créer le Ski Club des Alpes en 1885. À Chamonix, c'est encore un petit peu différent. C'est le docteur Michel Payot qui, dès 1896, va utiliser les skis pour aller voir ses patients. Parce qu'à l'époque, on n'allait pas chez le médecin. C'est le médecin, le docteur, qui se déplaçait voir les patients. Donc lui aussi avait besoin de se déplacer. Et quand il a vu pour la première fois ses skis, eh ben, très tôt, il les a adoptés. Il les a utilisés dans la vallée de Chamonix. Après, les skis, en France, ils ont aussi beaucoup été utilisés par l'armée. L'armée aussi avait besoin de se déplacer dans la neige rapidement, donc va utiliser les skis. Et c'est d'ailleurs le ministre de la Guerre qui va créer la première école de ski en 1903 à Briançon. En 1924, il y a 100 ans, a été créée la Fédération française de ski et la Fédération internationale de ski.
Quelle a été la première station de ski ?
Alors, la première station de ski en France ou à l'étranger ?
En France.
En France. Parce qu'effectivement, si on parle d'étranger, c'est surtout en Norvège, donc à Telemark, que ça commence en 1700. Pour la France, très clairement, Chamonix est une des premières stations de ski. Dès 1896, le docteur Michel Payot utilise ses skis comme moyen de transport. Mais très très vite, ça va prendre de l'ampleur. Et le ski, qui au départ sert à se déplacer, va devenir un plaisir d'hiver et très très vite un sport. Chamonix va organiser le deuxième concours international de ski en 1908. Et puis bien sûr, en 1924.
C'était Aline D'Acosta. Merci à elle d'avoir répondu à mes questions. Pour poursuivre cette interview, j'ai travaillé une chronique sur le freeride. Est-ce que tout le monde connaît le freeride ?
Oui, c'est du ski, mais je crois que je ne sais pas trop comment l'expliquer.
Oui, c'est un peu ça, mais je vais vous expliquer plus précisément son histoire avec ma chronique.
Quelle est l'origine du mot freeride ?
Le mot anglais free signifie libre, le mot ride veut dire monter, chevaucher. Donc le terme freeride signifie chevaucher librement par extension à la pratique libre.
Est-ce une pratique dangereuse ?
Le snowboard est né au début des années 1990. Le snowboard est alors une forme de glisse nouvelle et qui est une alternative au ski. Le film Apocalypse Now, c'est une sorte d'histoire entre deux tribus composées de monoskieurs d'un côté et de snowboarders pour l'autre côté, a participé au développement du freeride. Ce film est très original, il marque une rupture dans les façons de faire des images avec des scènes sensationnelles de gros sauts. C'est aussi le début des films vidéo, du marketing, des sports de glisse et de tous les sports extrêmes escalade, surf, parapente, VTT, skate, etc. Avec beaucoup de figures spectaculaires. Le freeride en général, toute discipline, et le ski freeride en particulier, est un peu en opposition au cadre formel avec des règles que l'on trouve dans les clubs, les fédérations. Démocratisation du freeride. En France, un rider comme Candic Tovex réalise beaucoup de prouesses, énormes sauts, figures dans des endroits particuliers, par exemple, sauts de chalets, de maisons, descentes de volcans, de la muraille de Chine. Beaucoup de magazines spécialisés, réseaux sociaux, relaient les exploits des freeriders. De nouvelles marques de ski apparaissent et chez tous les fabricants de ski, les gammes freeride évoluent sans cesse. Ski, bâton, casque, etc. Le mode exploite aussi la tendance avec le look freeride. Pantalon large, veste large. D'autres freeriders, comme actuellement Vivian Bruchet de la vallée de Chamonix, ont une approche plus tournée vers l'alpinisme, moins de sauts, mais descentes de couloirs peu accessibles, très raides et de pentes jamais skiées.
Est-ce que c'est une pratique dangereuse ?
Oui, si c'est mal fait. Les avalanches, les sauts de barres rocheuses, les cailloux masqués, les arbres, etc. Mais beaucoup de freeriders racontent leurs mésaventures pour que d'autres ne reproduisent pas les mêmes erreurs. Bon côté pédagogique des réseaux sociaux. Il y a environ 30 morts par an en avalanche, mais finalement assez peu de freeriders par rapport aux randonneurs. Finalement, le ski freeride ou le ski hors-piste reste très intéressant, car cela oblige à avoir de nombreuses compétences, capacité à connaître l'environnement montagnard, à lire le terrain, capacité à évaluer le danger, avalanche, saut, capacité à s'évaluer, sans oublier la chance d'évoluer dans des paysages fantastiques. On peut remarquer que le terme freeride, pratique libre, sans règles, est devenu une activité très codifiée avec plein de compétitions. X-Games, Freeride World Tour, bientôt discipline olympique. Il est intéressant de voir l'évolution des pratiques. Enfin, l'avenir du ski, il sera lié au réchauffement climatique.
Merci beaucoup Armand pour cette chronique. On poursuit notre émission, mais tout de suite, une pause musicale avec Praise in the Moonlight. They say the sun and a shine for all, but they in some people world yet never shine at all. These roads of flames are catching a fire.
That you sing my song, my song. I've been on this road for way too long. I've been hoping that we all get along. These roads of flames are catching a fire. Ah, showed you I loved you, you called me a liar. Give God the thanks and praises. I've been on my own, on, on. But we ain't never left alone, long, long. And if I'm telling you the feeling is wrong, relax a little, friend, this won't take too long. And when you're feeling alone, you can call my phone. Is there a better way to go? Teach them something before they lose the song. Manipulate you through your pockets. Oh,
De retour dans notre émission, vous venez d'entendre Praise in the Moonlight. Maintenant, c'est au tour de Nila pour présenter son interview.
Oui, moi je me suis interrogée sur les habitations à Chamonix au 18e et 19e siècle.
Bonjour Héloïse, vous travaillez pour le musée Montagnard aux Ouches, spécialisé dans les habitats au 18e et 19e siècle. Pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, je m'appelle Héloïse Coudeville, je suis la responsable du musée Montagnard aux Ouches, effectivement, qui reconstitue l'habitat traditionnel en montagne, dans la vallée de Chamonix et spécialement aux Ouches.
Pour quelles raisons exercez-vous ce métier ? Qu'est-ce qui vous a motivée ?
C'est une bonne question, Nila. J'ai toujours été intéressée par la culture et principalement les musées. Voilà, j'ai à cœur de partager le patrimoine et c'est pour ça que je suis devenue médiatrice culturelle, qui est vraiment mon métier principal. Donc faire le lien entre ce qu'il y a dans les musées et le public, les visiteurs, etc.
Le musée Montagnard a-t-il été toujours un musée ?
Et non, le musée Montagnard a été autre chose avant d'être un musée. C'était tout d'abord la maison d'une confrérie religieuse, celle de l'église Saint-Jean-Baptiste, qui est donc dans le centre des Ouches. Donc à ce moment-là, on avait des confrères, des religieux qui se réunissaient dans l'ancien musée Montagnard. Puis on a eu par la suite des commerces, des habitants. Il y a même eu une boucherie à un moment. Donc voilà, le lieu a vraiment changé d'endroit. Et en 1977, c'est devenu le musée Montagnard, qui conserve aujourd'hui un patrimoine donc de l'habitat traditionnel, d'objets du quotidien utilisés autrefois dans la vallée de Chamonix.
Pouvez-vous nous dire combien il y avait de pièces dans la maison ?
Dans la maison traditionnelle, donc il y avait assez peu de pièces. Vraiment, on va dire trois pièces principales. Le pelle, qui est vraiment la pièce de vie. En fait, ce nom de pelle, ça vient du mot poêle, qui chauffait la pièce. Donc c'est là où toute la famille se réunissait pour dormir, pour faire différentes activités, différents travaux. On a également en pièce principale l'outa, qui est la cuisine, où on cuisine et on mange les repas. Hein, ça fait un peu salle à manger cuisine. Ensuite, on a le sarto, qui est le cellier. Là où on stocke les aliments, les fromages, les pommes de terre, les fruits séchés, toutes sortes de choses. Ça, c'est vraiment les pièces principales de l'habitation. Dans les familles un peu plus aisées, on va dire, on pouvait avoir deux pièces de vie, donc deux pelles. Voilà. Et ça dépendait aussi des familles. Si on avait par exemple les grands-parents qui vivaient dans la même maison, on pouvait avoir plus de pièces que s'il y avait simplement la famille avec les parents et les enfants.
Est-ce que les animaux vivaient dans la maison ou en dehors ?
Et oui, c'est une bonne question, parce que c'est pour ça aussi que les maisons étaient plus petites avant. C'est parce qu'il fallait se partager l'espace avec les animaux. Donc on parle d'écurie hein, dans la vallée de Chamonix pour l'étable. Et cette écurie, elle est au même niveau que les pièces d'habitation, séparées par des murs, mais facilement accessibles en fait, depuis la maison, pour notamment éviter de devoir sortir en hiver, quand les troupeaux étaient à l'intérieur, dans cette écurie. Donc pour aller les nourrir, on pouvait directement passer de la maison à cette écurie pour s'occuper d'eux, pour la traite, voilà, et éviter de sortir. Il faut imaginer qu'il y avait beaucoup plus de neige autrefois qu'aujourd'hui.
Ils étaient faits en quoi, les habitats ?
Alors, les habitats étaient faits principalement en bois et en pierre, tout simplement parce que c'est ce qu'on trouve le plus hein, dans la vallée de Chamonix. Donc, on utilise ce qui est à proximité. Donc, les pierres, plutôt pour le bas des maisons, ce qu'on appelle le soubassement, les fondations. Donc, ça pouvait être des pierres qu'on allait ramasser aussi dans les torrents, hein, du granit aussi, parce que c'est le genre de pierre qu'on peut trouver dans le coin. Et la partie plus haute de l'habitation était plutôt en bois. Voilà. Et y compris la grange qui était au-dessus de la maison. On ne peut pas vraiment dire que c'était une pièce, mais voilà, ça fait partie de l'habitat aussi.
Comment ils faisaient pour stocker la paille, la nourriture des animaux ?
Eh bien, justement, ils la stockaient dans cette grange. Donc, il fallait vraiment avoir assez de foin. Et très souvent, les maisons étaient un peu adossées à la pente, ce qui veut dire qu'en fait, on pouvait charger le foin au printemps-été depuis l'extérieur de la maison directement dans cette grange et l'hiver, la récupérer depuis l'intérieur par une petite trappe, hein, comme il faut imaginer un peu un grenier aujourd'hui. Et donc, c'est là qu'on stockait tout ce foin, toute cette paille qui servait ensuite à nourrir les troupeaux tout l'hiver.
Comment ils faisaient pour se nourrir au 18e ?
Eh bien, ils devaient cultiver, produire en fait leur nourriture. Donc à la fois des légumes, hein, très souvent on avait un potager qui était attenant à la maison, avec des légumes comme la pomme de terre hein, qui est importée à peu près à cette époque-là dans la région, hein, qui vient d'Amérique du Sud à l'origine. Donc on cultive parce qu'elle se plaît très bien en montagne, les choux, les salades, les vieux légumes, hein, ce qu'on appelle les vieux légumes aujourd'hui, donc les betteraves, les navets, voilà, tout ce qui poussait aussi, hein, parce que voilà, faut pas imaginer que les tomates poussaient très bien aux ouches à cette époque-là. Et après, il y avait tout ce qui était produit du lait qu'on fabriquait soi-même, donc le fromage, éventuellement voilà des yaourts, le beurre aussi. Voilà, ça on le produisait directement après à partir du lait qu'on récupérait des troupeaux. Et dernière chose, de temps en temps, mais assez rarement, on pouvait manger aussi de la viande. Souvent, on avait un cochon en fait qu'on tuait du coup une fois dans l'année, souvent au moment de Noël, pour avoir un petit peu de viande à ce moment-là de l'année, et on la faisait sécher en fait dans la grande cheminée, ce qui permettait de la garder plus longtemps et d'en manger un peu, enfin, pas seulement sur le moment en fait, mais voilà, c'était quand même assez rare de manger de la viande.
Avait-il de l'eau et de l'électricité courante au XVIIIe et XIXe siècle dans les habitats ?
Et non, l'électricité et l'eau courante sont arrivées assez tard. Je ne saurais pas vous dire exactement quand elles sont arrivées aux ouches, en tout cas dans les habitats traditionnels. Mais en tout cas, jusque dans les années 1950, on vit quand même encore un peu de manière traditionnelle. Hein, les ouches se développent un peu plus tard que Chamonix. Et donc au XVIIIe siècle, il fallait faire sans, ça c'est sûr. Donc par exemple, pas d'eau courante, ça voulait dire aller laver son linge en extérieur. Donc par exemple, dans un bassin attenant à la maison, dans la rivière à proximité. Et donc l'électricité, ça voulait dire éclairage à la bougie, un peu plus tard à la lampe à pétrole ou lampe à huile. Donc on peut imaginer qu'on se couchait peut-être un peu plus tôt, on veillait un peu moins tard qu'aujourd'hui, on a l'électricité. Voilà, à cette époque-là, on devait faire sans.
Est-ce qu'ils avaient des toilettes et comment ils faisaient s'ils n'y en avaient pas ?
Alors non, il n'y avait pas de toilettes, en tout cas dans la maison. Quand il y avait des toilettes, c'était à l'extérieur, hein, dans le jardin. Donc très souvent, c'était une petite cabane en bois qui ressemblait un petit peu à des toilettes sèches, hein, ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et donc il fallait sortir de la maison pour aller aux toilettes. Voilà, à nouveau, quand il y en avait, hein, ce n'était pas le cas à chaque fois. Donc ce qu'on pouvait faire, c'était aller aussi dans l'écurie, hein, en hiver, quand on ne pouvait pas aller dehors, par exemple, donc là où étaient les animaux, ou aussi utiliser des dépôts de chambre, hein, qu'on mettait au pied du lit et qui évitaient de sortir en pleine nuit. Donc ces pots de chambre, on en a au musée Montagnard, et le matin, en fait, on les vidait à l'extérieur ou dans l'écurie. Et ça pouvait servir aussi d'engrais au potager. Rien n'était perdu. Voilà.
Combien de gens vivaient dedans environ ?
C'est une bonne question parce que ça dépend un petit peu des familles. Après, souvent, on avait beaucoup plus d'enfants qu'aujourd'hui, puisque les enfants aidaient beaucoup au champ. On pouvait avoir des familles très nombreuses avec 6, 7 enfants, plus les parents, plus parfois les grands-parents. Donc c'est un petit peu dur de donner un chiffre exact. Mais voilà, c'était quand même des familles beaucoup plus nombreuses qu'aujourd'hui, ça c'est certain.
Et pour revenir aux animaux, il y en avait combien et c'était quelle espèce ?
Alors très souvent on avait donc plusieurs types d'animaux, des vaches évidemment, parfois un mulet ou un cheval, mais plutôt un mulet dans la vallée de Chamonix, cochons, lapins, des chèvres, des moutons, des poules, un petit peu tous les animaux de la ferme. Sachant que quand on avait un mulet par exemple, enfin voilà, c'était un mulet, c'était déjà une richesse, hein, souvent pas plus. Les vaches, on devait en avoir 3, 4, 5, 6 grand maximum. Hein, voilà, on avait vraiment des petits troupeaux, hein, c'est pas les grands troupeaux d'aujourd'hui. Une ou deux chèvres, pareil, peu de moutons et quelques poules lapins, mais c'était quand même des troupeaux beaucoup plus réduits.
Merci Nila pour ton travail. Dans un instant, nous vous parlerons de Henriette d'Angeville, la deuxième femme à avoir gravi le Mont Blanc. Mais tout de suite, une petite pause musicale avec Vampire de Olivia Rodrigo.
I see the parties and the diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture. You sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. 'Cause I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart, but you made me look so naive. The way you saw me for parts, you sunk your teeth into me. Bloodsucker, fame fucker, bleeding me dry like a goddamn vampire. You told me you were bad, bad news. You called them crazy. God, I hate the way I called them crazy too. You're so convincing. Do you lie without flinching? What a mesmerizing, paralyzing, fucked up little thrill. Can't figure out just how you do it, and God knows I never will. And for me and not her. Just girls your age know better. I've made some real big mistakes.
De retour sur Globule Radio, on poursuit l'émission avec Emma pour nous parler d'Henriette d'Angeville.
Oui, tout à fait. Henriette d'Angeville, c'est un nom connu de l'alpiniste. Elle est la deuxième femme à avoir gravi le Mont Blanc. Henriette d'Angeville est née le 10 mars 1794 en Bourgogne et est décédée le 13 janvier 1871 à Lausanne, en Suisse. Elle est surnommée Mademoiselle d'Angeville, la fiancée du Mont-Blanc. C'est une alpiniste franco-suisse, c'est également la deuxième femme après Marie Paradis à gravir le Mont-Blanc. Elle commence l'alpinisme dès l'âge de 10 ans. À 44 ans, elle gravit le Mont-Blanc accompagnée de 12 guides et porteurs pour atteindre le sommet le 3 septembre 1838. Pour préparer son ascension, elle se fait confectionner une tenue spéciale qu'elle dessine elle-même en s'inspirant des tenues de chasse des hommes de l'époque. Elle entame son ascension du Mont-Blanc 30 ans après la célèbre Marie Paradis. Quelques mois avant sa mort, Marie Paradis participe à la réception donnée à Chamonix en l'honneur d'Henriette d'Angeville. C'est à cette occasion qu'elle la félicite car à ses yeux, Henriette d'Angeville est la première véritable femme alpiniste à monter au sommet du Mont-Blanc, puisqu'elle n'a pas eu besoin d'être portée par ses guides. Célibataire sans enfant, Henriette d'Angeville continue l'alpinisme pendant 25 ans. C'est grâce à l'héritage légué par sa famille qu'elle peut continuer à vivre de sa passion.
Merci Emma pour ton reportage. On passe dans un instant à la seconde partie de l'émission avec nos chroniques personnelles. On écoute tout de suite Call Me Maybe.
Le groupe de Emma, Nila, Armand et Niklas. On a fini de vous parler de Chamonix au 18e et 19e siècle. Tout de suite, on vous présente des chroniques sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Niklas, tu voulais nous parler de ta passion du handball.
Oui, c'est ma passion, mais je voulais surtout parler de l'intégration du handball parmi les sports de montagne à Chamonix. Le handball est le sport collectif français le plus titré. J'ai commencé par vous parler de la catégorie des plus jeunes, de 3 à 6 ans. Pour les plus petits, il y a deux catégories, les baby-hand et mini-hand. Pour les baby-hand, c'est de 3 à 5 ans, et le mini-hand C2, 6 à 8 ans. Les entraînements se déroulent le samedi matin à partir de 10h. Ensuite, il y a des collectifs de moins de 11, moins de 13, moins de 15 et seniors. Le club de handball de Chamonix est le seul club à proposer des séances pour des enfants de 3 ans.
Tu peux nous parler de l'histoire de Chamonix, du club de Chamonix ?
Le club de handball de Chamonix a été créé il y a longtemps, mais c'est en 2007 que Sébastien Robert a relancé les activités après plusieurs années d'inactivité. Julien Baudou, président du club de handball de Chamonix, occupe ses postes depuis 2014. Corentin Autier occupe le poste de trésorier depuis 2021. Et puis enfin, Aymeric Cravo, quant à lui, est entraîneur depuis 2022 et il entraîne la section des moins de 15 ans. Je termine en vous parlant du gymnase de Chamonix et comment les clubs s'organisent entre eux. Il y a plus si longtemps, la salle Pierre de Coubertin du centre sportif Richard Boson a été rénovée. Il y a des tracés de badminton, volley et handball. Le club utilise la salle pour les entraînements et les matchs. Le foot vient aussi s'entraîner l'hiver sur le terrain. Et il y a le forum des sports tous les ans au mois de septembre. Le principe de cette chronique était de mettre en avant le club de handball de Chamonix, qui évolue chaque saison en étant un des rares sports collectifs à Chamonix.
Super, merci beaucoup pour ta chronique. Ma chronique est sur les accessoires pour chiens ou les chiens en accessoires. Je sais que ça peut être un thème assez bizarre, mais savez-vous que d'après le point B, 58% des gens qui ont un chien les habillent. Une tendance à gagner en popularité, habiller les chiens. Cela nécessite fascination et débat, mais quels accessoires ? Les propriétaires de ces animaux à quatre pattes achètent des vestes, des pulls, des t-shirts, des chemises, des robes ou costumes, des chaussures et accessoires comme des chapeaux, colliers et des poussettes.
Mais ça leur sert à quoi ?
Les vestes, c'est pour le froid, comme les sweats. Les t-shirts et chemises, c'est pour l'été quand il fait chaud. Les robes et costumes, plus pour les occasions spéciales. Les poussettes, pour éviter de faire marcher les chiens. Et les accessoires de tête, pour le côté esthétique, d'après le site Etsy. Et les chaussures, pour les protéger du sel et des grilles.
Pour toi, c'est négatif ou positif ?
Bah, il y a plein de points positifs et négatifs. Mettre des chaussures pour protéger les chiens du sel sur les routes, les grilles et les cailloux. Mais les accessoires comme les colliers, pour les retrouver. Mais mettre des chapeaux, lunettes, à part pour le côté drôle, il n'y a pas de côté confort ou utile. Mais mettre des pulls, vestes, chemises, robes, c'est un peu ridicule. Les poussettes, les chiens, leur seule envie est de courir, de se dépenser et pas d'être enfermés dans une poussette.
Mais ils en pensent quoi, les maîtres ?
Bah, je pense qu'ils aiment, sinon ils les habilleraient pas comme ça, et c'est peut-être un moyen de se coordonner avec eux.
Et toi, tu en penses quoi ?
Je trouve que pour moi, c'est vraiment inutile, ridicule de habiller des chiens, car ça leur sert à rien, à part de pas profiter ou de ne pas être bien. Mais au contraire, les chaussures, c'est bien, car ça sert à pas leur faire mal, au coussinet. Peut-être que ce n'est pas esthétique, mais au moins, c'est pratique.
Merci beaucoup, et maintenant, reste en vie de Luigi.
Sommeil en toi, le paradis, l'enfer sont le même endroit. J'aimerais tellement que tu vois ce que je vois. J'aimerais tellement te prêter mes yeux. Puisse voir le feu qui sommeille en toi. Le paradis, l'enfer sont le même endroit. CDI de 8h à 8h. Semaine de 48 heures. Je n'étais qu'un gosse, un rêveur. Ce qu'ils appellent un rappeur de Twitter. Je traînais dans les DM. De combien de ces belles sirènes que j'invitais à mes clips moi-même. N'oublie jamais ta mission. Pour un peu d'amour, un peu d'attention. Surtout si tu ne vis pas encore du son de ta passion. Donne-toi les moyens de tes ambitions. Prends soin de toi. Trouve un job, arrondis tes fins de mois. Assume-toi, c'est le premier pas. Assure-toi bien de l'amour des gosses, du respect des anciens. Jeunes souvent mangent bien. Garde la tête haute même quand t'es en chien. Et quand tu montes, n'oublie personne en chemin. Je sais que d'avoir ta mère contre toi, c'est plus dur que d'avoir le monde contre toi. Mais j'aimerais tellement que tu vois ce que je vois. J'aimerais tellement te prêter mes yeux, que tu puisses voir le feu qui sommeille en toi. Le paradis, l'enfer sont le même endroit.
tu restes en vie. J'aimerais que tu restes en vie. J'aimerais que tu restes en vie. J'aimerais que tu restes. J'aimerais que tu restes en vie. 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 J'aimerais que tu restes en vie.
Rebonjour, ici le groupe de Nila, Armand, Emma et Niklas. Et maintenant, celle d'Emma sur l'alpinisme.
En France, sur 1700 guides, seulement 32 sont des femmes. À Chamonix, elles ne sont que 4 sur 160. Normal ! Apparu au 19e siècle, l'alpinisme, à son origine, concernait uniquement l'ascension des sommets montagneux. L'alpinisme est une pratique consistant à effectuer des ascensions sur des terrains au relief de type alpin. Le terme alpinisme apparaît en 1877. Pourtant, c'est en 1808, 70 ans plus tôt, qu'une Marie Paradis réussit pour la première fois l'ascension du Mont Blanc. Quel âge pour devenir guide de haute montagne ? Les candidats doivent avoir 18 ans révolus au 1er janvier de l'année de l'examen, avec 3 ans minimal pour remplir une liste de 39 courses réussies en tête. L'alpinisme, à l'origine, est une pratique très masculine et se finissent bien que les femmes demeurent toujours minoritaires et souvent relayées au rôle de seconde cordée. En montagne, les femmes ont longtemps été victimes d'une dynamique largement masculine et traditionnaliste. Un alpiniste sans guide et non expérimenté peut vite se retrouver en grand danger. Celui-ci peut se manifester de manière plus ou moins virulente, du simple mal de tête au vomissement, voire dans les pires des cas, l'œdème cérébral.
C'est quoi l'alpinisme ?
C'est une discipline sportive qui se pratique en haute montagne au-dessus de 2000-2500 mètres d'altitude. L'objectif est d'atteindre le sommet le plus souvent à pied ou en ski de rando. On est souvent plusieurs, deux ou trois, et l'on forme ce que l'on appelle une cordée. Pour commencer une ascension, il faut être bien équipé. Sac, cordes, crampons, piolets, nourriture, eau, vêtements chauds, casque, dégaine, baudrier. L'alpinisme est essentiellement un jeu, quoi que l'on dise. Il apporte donc à l'homme le sens de la grandeur et de la beauté. Il lui apporte également une aventure avec la nature, avec les éléments simples que depuis le premier âge de la terre, l'homme porte en lui.
Qui sont les femmes connues dans le milieu de la montagne et l'alpinisme en France ?
Maria, ou Marie Paradis, appelée la Paradisa, née en 1779 à Saint-Gervais-les-Bains, à l'époque faisant partie du royaume de Sardaigne et morte en 1839, est une habitante de la vallée de Chamonix. Elle est connue pour avoir été la première femme au sommet du Mont Blanc le 14 juillet 1908. Martine Roland est la première femme en Europe à avoir obtenu le diplôme de guide de haute montagne. C'était en 1983, très bonne alpiniste et grimpeuse. Sylvaine Tavernier est la première femme à avoir intégré la compagnie des guides de Chamonix dans les années 80. Marion Poitevin, née en 1985, est une pionnière en France parmi différentes professions de la montagne militaire, puis instructrice. Elle a été notamment la première femme admise au groupe militaire de haute montagne.
Quel est ton avis personnel ?
Je pense que les femmes ont également leur place dans le milieu de la montagne et l'alpinisme. Elles ont les mêmes compétences que les hommes et je ne trouve pas ça juste qu'au jour d'aujourd'hui, les femmes n'aient pas accès à certains métiers. Je comprends pas pourquoi elles seraient plus défavorisées que les hommes. Mon souhait serait de se voir développer l'alpiniste féminin. J'ai choisi ce sujet car j'aimerais en faire mon métier plus tard. Je suis fascinée par ce métier et j'aimerais transmettre ma passion pour la montagne et l'alpinisme et faire découvrir ce sport à beaucoup de personnes qui m'entourent.
Merci beaucoup Emma.
Et merci à tout le monde de nous avoir écoutés.
C'était Nila, Armand, Emma et Niklas.
Merci.
Au revoir à tous. Passez une bonne
après-midi. Au revoir. Bon après-midi.